On va commencer avec une communication d'Arnaud Lemarchand. Je voulais juste dire qu'il y a un petit changement dans le programme parce que nous n'aurons pas les communications de Philippe Gonin et Nicolas Lahaye. En revanche, nous aurons une communication de François-Gilles Le Teul que nous avons déplacé.
Et Sacha.
Et Sacha, pardon. Donc en fait, voilà. Donc c'est juste un déplacement de communication, le volume restant le même. Voilà. On est très content de vous accueillir sur cette deuxième journée du colloque Punk is not dead, work in progress numéro 5. Voilà. Et on espère que vous allez passer une très bonne journée en notre compagnie. Voilà.
Bon, parfait. Eh ben, vas-y.
Bon, le principe restant le même, un intervenant, une vingtaine de minutes et 10 minutes de questions-réponses pour qu'on tienne un petit peu le temps. Cher Arnaud,
eh ben,
c'est à toi.
Merci. Donc, ben, merci de m'accueillir, merci d'organiser ces journées, d'autant que cette communication, c'est un peu la suite d'une idée hein, qui m'était venue lors des journées qui avaient eu lieu au Havre. Et donc j'ai essayé un peu de continuer. Alors comme je suis à l'origine, j'étais un économiste, évidemment, je m'intéresse toujours un peu à des questions d'économie. Et puis j'avais vu les labels. Alors l'une des grandes questions que je me suis posée, c'était finalement, j'avais connu un peu les labels punk dans les années 80, et puis je me suis intéressé aussi au cinéma expérimental. Et ce qui était intéressant, c'était que dans le cinéma expérimental, il y avait une tradition de coopérative, dès le début, hein, dès les années 60, très très tôt, et on n'a rien de tel au début du punk. Et pourtant, on pourrait dire que certains labels fonctionnaient comme des coopératives de fait. Hein, on sait que Rough Trade, il n'y avait pas de contrat, tout le monde touchait la même somme d'argent, et ça fonctionnait dans d'autres labels de cette façon-là. Mais pour autant, ce ne sont pas des associations. Rough Trade n'était pas une association, et la plupart des labels que j'ai connus n'étaient pas des associations. C'était des SARL, voilà. Alors pareil, même Bondage Records hein, a démarré en association, mais il se transforme en SARL en 1986. Hein, donc on a souvent soit des sociétés privées, en fait, ou alors des collectifs qui n'ont pas de statut, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas déposé de statut d'association. Alors une autre question que je m'étais posée, parce que ça j'en ai été un peu témoin, c'était la fin des labels au tournant des années 89-90, qui est souvent lié au lâchage des banques, hein, parce que les normes comptables de l'époque ne reconnaissent pas la valeur du stock des disques, ni la valeur immatérielle du label. Hein, ce qui faisait que le stock des disques était enregistré au passif et ça entraînait un fonds de roulement négatif, et donc évidemment il n'y avait pas de crédit. Alors on peut aussi se poser la question de savoir si effectivement la SARL était un bon système, quoi, et si la forme associative ou coopérative n'aurait pas été plus adaptée. Alors, j'ai essayé de faire une petite enquête là-dessus. Grâce à un copain qui avait son mail, j'ai pu avoir un très bref échange avec Jello Biafra. Donc, ce qui m'intéressait, parce que Alternative Tentacles, c'est quand même le dernier des punks, à ma connaissance en tout cas, des labels historiques indie qui ont survécu. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes, hein, il y a eu des procès, etc. J'avais lu que c'était une association, mais en fait, non, enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je lui ai posé la question. Alors, il dit, si c'était une... Alors, en anglais, c'est Non-Profit Organization. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, ce n'est pas officiellement un non-profit, c'est-à-dire que c'est privé, en fait. Hein. C'est un statut privé, mais effectivement, ça aurait pu. Lui, il explique, en fait, il a fait survivre Alternative Tentacles parce qu'en fait, il remettait tout le temps l'argent dedans, y compris d'ailleurs ce qu'auraient dû toucher les dettes Kennedy, d'où le conflit avec ses autres co-membres du groupe, dont deux, d'ailleurs, maintenant, sont, je ne sais pas si c'est par réaction, des républicains affirmés, hein, faut le savoir quand même. C'est quand même assez étonnant, parce qu'en fait, il y a un dette Kennedy qui tourne, il y a un groupe d'Ed Kennedy qui tourne sans Jello Biafra, avec un chanteur qui réinterprète les chansons de Jello Biafra. Mais il y a deux des musiciens originels qui maintenant sont des républicains affirmés. Voilà, donc en tout cas, on a un premier indice, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il se considère bien comme non-profit, mais il n'avait pas le statut de non-profit. Je m'amuse à lui demander si c'est une définition pour la firme punk. Alors, il me répond qu'il s'intéresse pas aux définitions générales. Et puis, je lui ai posé une question d'un truc dont j'avais entendu parler, qui était le Worldwide Independent Network, qui était une espèce de tentative d'organisation, une coopérative dans les mondes underground. Et en fait, il n'en a jamais entendu parler. Voilà. Et donc, ça semblait assez théorique comme point de vue. Alors, je suis aussi allé voir Yann Farcy, l'ancien donc fondateur de l'invitation au suicide. Et donc, lui me dit Sordide Sentimental avait un statut d'association. Hein. Parce qu'en fait, il avait été. C'est Turmel, hein, Turmel qui lui avait mis le pied à l'étrier. Hein. Mais lui, il venait de la fin des années 60 et c'était une activité parallèle. Mais il dit, on parlait jamais de ça, on parlait que de musique et littérature. Et lui, hein, renvoie non plus, il a toujours défendu une approche dandy hein, du rock et du punk. Hein. Son modèle, c'était Désessante. Ce qui était au passage hein, donc le personnage de À rebours de Bismont, ce qui était le livre préféré de Gainsbourg d'ailleurs. Et donc il était dans une approche, on pourrait dire, anarchiste très individualiste. Alors il dit d'ailleurs, hein, pour ma part, je n'ai jamais eu envie de contacter des labels pour discuter avec eux, alors que j'écrivais à de nombreux groupes ou fanzines, et je me souviens d'ailleurs pas d'avoir vu une seule fois avoir reçu un courrier d'un label. Faudrait voir, mais enfin donc on est plutôt, il n'y a pas d'organisation, on est bien dans un système privé, pas vraiment géré comme une entreprise privée, parce que même Yann ne gagnait pas d'argent. Hein, et voilà. Alors, donc, en octobre 89, le fanzine On a faim, qui est un fanzine de Saint-Étienne-de-Rouvray, mais qui était important hein, à l'époque, va consacrer un numéro à ce sujet, de celui sur la fin des labels, donc après la crise d'octobre 89, hein, puisque en fait, la plupart des labels français historiques finissent à ce moment-là, hein, y compris, et puis les labels anglais, Rough Trade, etc. Et il y a un des articles qui est la transcription d'une table ronde qui est intitulée « Spécial débat, recherche rock alternatif, désespérément ». Alors il y a un des intervenants qui regrette la période plus informelle des débuts. Il dit ça va être une opinion qui existait dans la scène punk à l'époque, qu'au fond, hein, c'est la volonté de certains groupes d'acquérir plus de visibilité, on dirait maintenant, hein, de se commercialiser, qui va entraîner des frais qui vont couler les labels. Hein, donc finalement, parce que c'est apparemment le cas pour Pondage Records, hein, les coûts qui avaient été liés au fait du concert de Bercy hein, n'ont jamais pu être récupérés et les banques ont lâché, y compris parce que ça permettait après pour les majeurs de racheter les catalogues. Mais lui, donc, il dit au fond, il aurait fallu rester dans les collectifs initiaux. Donc c'est plutôt ça son idée. Hein, voilà. Et donc c'est l'idée au fond, il fallait garder une espèce d'économie underground, d'autoproduction. Alors il y en a un autre qui s'appelle Vlag, hein, et qui lui, donc pour lui aussi, le problème vient de la course en avant financière, hein, de la tentative de rivaliser avec les majors. Donc il y a cette idée qu'il y a un changement de normes, hein, en fait que les groupes, finalement, veulent autre chose. Hein. Et notamment ceux qui sont visés, c'est les Smiths, hein, qui sont censés être, au fond, avoir initié ce mouvement. C'est eux qui répondent aussi à un des majors. Et maintenant qu'il y a un public rentable qui existe, et tout ça amène les labels indépendants ou associatifs à adopter une stratégie dont ils n'ont pas les moyens. Et cette course mimétique explique les faillites en cascade. Ça, c'est pointu. Alors, dans ce cas-là, on aurait pu dire que le recours à la forme associative aurait pu être une réponse. Hein, mais d'une façon conforme à une tradition d'économie sociale qui aurait dû avoir des échos à cause des connexions de beaucoup de punks avec les mouvements libertaires. Enfin, c'était le cas, nettement, dans On a faim, hein, qui était très, très clairement lié au mouvement libertaire. Mais c'est resté très relatif hein, dans le cadre de la scène punk. Alors, il y a un contre-exemple, donc c'est Good Enough Movement, qui est un label donc, qui a été créé en 84, qui disparaît, je ne sais pas exactement quand, je crois que c'est en 89 aussi, mais je ne suis pas sûr. Alors, qui est d'ailleurs un label intéressant, hein, parce qu'ils ont commencé à Juvisy, et puis ils sont déplacés à Angers, et à Montpellier, enfin, il y a une géographie très différente. L'origine, c'est un fanzine, hein, c'est-à-dire qu'avant le label, il y a un fanzine, et puis il y a qui fait une compile, hein, les héros du peuple sont immortels. Alors, j'ai pu interviewer Juliette, donc qui est l'ex-manager des Sheriffs, qui a été très impliquée dès le début dans le Gonief Mouvement. Et elle, son idée, c'est ce qu'elle met en avant, c'était que pour eux, l'implication des groupes dans la vie des labels était très importante. Hein, c'est-à-dire que pour les gens de Gonief Mouvement, effectivement, il y a l'idée, les groupes doivent s'impliquer dans l'organisation et dans la vie des labels. Hein, et donc, alors pour elle, eux, ils avaient un statut associatif. Selon elle, ça servait à ouvrir un compte en banque, plutôt qu'à toucher des subventions à cette époque. Alors je me souviens que Bruce Pécou, qui est ici, avait dans un article de 2016 où tu parlais d'un groupe Bye Bye Turmin, Là, c'était l'idée, le statut associatif, ça sert à négocier avec le réseau des salles publiques. Donc il y avait quand même une utilité, mais pas forcément la subvention. Elle a dit, elle m'a dit, on a dû en toucher une, on a dû avoir un truc, mais c'était pas très important. Donc il y a un autre membre de Gouniaf Movement qui s'appelle Morbach, donc qui a donné une interview à un fonzine qui s'appelle Gnark Gnark. Donc c'est ne dépendre surtout pas des majors, tout maîtriser, etc. Donc d'ailleurs, Juliette racontait qu'elle a vu des groupes qui, à un moment donné, effectivement, étaient démarchés par les majors et qui finissaient par s'apercevoir la fameuse clause selon laquelle une major qui avait financé un disque n'était pas obligée de le vendre. On pouvait très bien ne pas le mettre en ligne s'ils avaient décidé qu'ils allaient promouvoir un autre disque ou un autre groupe au même moment. Alors, ce qui est très intéressant chez eux, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de prêt bancaire ni quoi que ce soit. Ils anticipent sur beaucoup de choses, puisqu'en fait, ils sortaient des disques. Et, alors, ce qui est très intéressant, c'est que les disques, en fait, ils fonctionnaient par des souscriptions. C'est-à-dire qu'ils préfinançaient certains disques par des souscriptions, ce qui, effectivement, anticipe sur le financement par crowdfunding. Donc, de ce point de vue-là, ils sont très en avance par rapport à d'autres. Et ils sont plus dans une tradition qu'on aurait pu voir dans le cinéma underground. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que, en fait, alors, Morbach ne veut pas dire ce qui s'est passé. Donc, la gestion est centralisée par le fondateur qui s'appelait Rico Maldoror, et qui avait un truc. Et puis, tout le monde n'a pas récupéré son argent. Alors, problème, une partie de l'argent des souscriptions a disparu. Et ça n'a pas marché. Alors, on va revenir là-dessus. Ils vont aussi découvrir un autre problème. En 1987, donc, ils ont une norme très associative, pas commercial, mais ils vont avoir un problème. En 87, ils vont produire un disque d'un groupe anglais qui s'appelle Red London, qui est produit à Londres moins cher qu'en France. Après débat, ils disent que le prix du disque va refléter cette baisse de coût, donc le disque va être vendu moins cher. Le résultat, c'est qu'il ne se vend pas. Parce que on retombe à un vieux problème commercial. Le prix trop bas est vu comme un indicateur de mauvaise qualité. Les gens qui ont fait de l'économie, c'est à Karl Offel Elements. Et donc là, il y a bien une norme commerciale. C'est-à-dire que si on vend le disque trop bon marché, si on met un prix trop bas, le disque ne se vend pas. Alors d'ailleurs, je crois que ce disque est, bizarrement, parce que ça, c'est le monde des collectionneurs, maintenant, il est très recherché, parce qu'il s'est très peu vendu, il n'y en a pas eu beaucoup. Et les Red London existent toujours, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, ils s'affrontent à une norme commerciale. Alors, l'interprétation de Juliette est assez intéressante. Alors, d'une part, elle dit qu'il fallait toujours se battre, au fond, pour défendre le travail de management des groupes. Et elle fait le parallèle avec le travail domestique féminin. Elle me dit le travail domestique féminin, il n'est vu que quand il est mal fait. Sinon, on ne le voit pas. C'est un discours féministe. Et elle disait que c'était, au fond, un peu la même chose avec le travail d'organisation des concerts. Donc c'est pour ça qu'il y avait un conflit. Les souscriptions, c'était génial, mais l'argent a été volé, et l'explication pour elle, c'est l'héroïne. C'est-à-dire, du point de vue de Juliette, qu'est-ce qui a, au fond, fait exploser le système associatif en fait, c'est l'héroïne. C'est l'addiction à l'héroïne. Et elle considère, au fond, que c'est la captation d'une... Enfin, c'est mon interprétation, mais ce qu'elle décrit, c'est la captation d'une économie alternative par un réseau d'économie criminelle. D'un point de vue économique, c'est ça, en fait. L'argent du punk file dans l'héroïne, quoi. Et aussi, il y a les réseaux commerciaux de l'autre. Donc là, on a un problème, effectivement, le straight edge punk, il n'est pas venu uniquement parce que il y avait trop de bagarres, même si ça en faisait partie. Il n'y a pas que l'alcool, il y avait ce problème-là aussi. Alors, elle relève beaucoup l'importance des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces groupes-là sont pris dans ce qu'on appellerait maintenant une économie morale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des valeurs qui sont importantes. Il ne faut pas que tes prix soient trop chers. Alors, ils découvrent qu'il ne faut pas qu'ils soient trop bon marché non plus. Voilà. Alors, en 1989, il avait commencé avant, mais j'ai eu que celui de 1999 et puis celui de 2002. Il y a un fanzine très curieux qui s'appelle la Tram Underground, qui a été fait par quelqu'un qui se faisait appeler Rebouteux ou Le Rebouteux. Et il publiait un guide des labels et des fanzines. C'est-à-dire qu'il faisait ça une fois par an, tous les deux ans, et c'était un guide de toutes les organisations, des collectifs, des boutiques, des radios, etc. Et donc, en 99, il dénombre 382 entités. Parfois, il signale quand il s'agit d'associations touchant des subventions, et une seule fois, une association sans subvention. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a que la mention association n'intervient que dans moins de 10% des cas. Alors, moi, j'ai l'impression que les punks refusent le stade associatif parce qu'ils sont toujours porteurs d'une vision dystopique. Hein, c'est-à-dire qu'ils prennent acte de la crise du communisme et de la social-démocratie. Pour eux, il n'y a pas d'espoir d'échapper au néolibéralisme. Hein. Et finalement, il ne croit pas à l'économie associative. C'était très important hein, dans le label On a faim. Hein, ils reviennent beaucoup là-dessus. Alors, en 2002, donc je l'ai eu qu'hier, la Trame Underground recense 582 labels, fanzines, organisateurs de concerts. Alors, il a élargi son spectre. Il inclut le cinéma underground et aussi les militants végétariens hein, qui font son entrée dans le guide de l'underground. Mais la mention du statut associatif, alors il envoyait un questionnaire et il posait toujours la question, hein, n'est faite que dans 55 cas, donc moins de 10%, et il n'y a que 33 qui déclarent recevoir des subventions. Donc moins qu'en 99. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que dans ceux qui reçoivent des subventions, il y a deux fois, c'est des associations de vente par correspondance. J'ai été un peu surpris. Par contre, il y en a 8 qui se déclarent, comme Djelo Biafra, non-profit. Donc on voit l'arrivée de la mention non profit, et il y en a une qui dit nos subventions et nos profits. Donc pas de profit, pas de subvention. On n'est ni capitaliste ni subventionné. Hein. Ça continue. Alors je suis tombé sur un nouveau fanzine qui s'appelle Rock Critique. Et alors c'est assez marrant parce qu'en avril-mai 21, il défend un film. Alors Who the Fuck is Roger Rosmail. Alors j'ai pas réussi à voir le film. Alors il doit être sur TikTok, mais je suis pas sur TikTok. Et il dit donc ce film mérite d'être diffusé car il s'agit d'une initiative personnelle garantie sans subvention du gouvernement. C'est à ce genre de détail que l'amateur de belles choses peut désormais faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, fuck les apparatchiks et autres artistes d'État. Donc le rejet aussi de l'économie publique via les subventions reste fort. Hein, bon. Donc il y a une association qui s'occupe de fanzines, hein, qui monte une fanzinothèque et qui relance des fanzinoises qui s'appelle Usine. Et donc, ils avaient fait un petit truc pour les 30 ans du fanzine Cher et Bibi. Et c'est assez mal. Donc, on a démarré en 92. Ils sont devenus une association qu'en 2007. Hein, ça n'était qu'un collectif de fait. Hein, il n'y avait pas d'association. Et c'est la déclaration en préfecture est vécue comme une concession, d'ailleurs. C'est un truc qui vive mal. C'est rendu nécessaire pour la production de numéros plus étoffés et la volonté de faire des dépôts légaux. Alors, du coup, d'ailleurs, avant ça, le prix des numéros était libre. Hein, et il devient fixe après, pour couvrir les frais d'impression. Le premier code-barre ne sera, par contre, adopté qu'en 2022, donc il y a quand même une résistance assez grande aux normes commerciales, ou extérieures, etc. Bon, ils sont toujours dans l'obligation morale de produire à un prix accessible aux revenus populaires et aux chômeurs. Il y a un des présentateurs, je pose la question sur le temps qui passe à faire des pliages, parce que Cher Habibi faisait des pliages qui pouvaient être très sophistiqués. Et il me dit, oui, bah, on était plus productif quand on était au chômage parce qu'on avait le temps. Hein, donc c'est vraiment la forme de coordination par le réseau. Leur lieu de réunion, c'était un bar de Belleville, le Zorba, puis après, il est devenu gentrifié, donc ils se sont déplacés sur un autre bar. Parce que le quartier a commencé à se gentrifier. La définition d'une entreprise punk n'est pas orientée vers le profit. Hein. Mais pourtant, elle ne s'intègre pas en général à l'économie sociale et solidaire. Au départ, elle n'est pas forcément destinée à vivre longtemps, mais elle peut, dans certaines circonstances favorables, se pérenniser sans chercher de changement institutionnel. Donc ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle l'entreprise associative, qui désigne des comportements hybridés entre bénévolat et contraintes marchandes. Il s'agit ici d'une hybridation entre engagement culturel, social et discours critique, mais avec aussi des contraintes marchandes, parce qu'on reste au sein d'une société marchande et qu'on est obligé de valoriser un certain nombre de choses. Mais il faut pointer, on peut considérer que les punks, c'est ce que certains diraient, sont, je ne sais pas moi, trop excessifs dans leur rejet de l'économie associative. Néanmoins, faut être clair aussi, une partie de ce discours des fanzines anticipe sur quelque chose qui est très important en ce moment, c'est les témoignages et la critique de l'exploitation et de la précarité en milieu associatif. Hein, finalement, c'est comme si les punks avaient toujours su que, c'est ce qu'ils disent, hein, au fond, le fameux statut n'est pas vertu. Hein, c'est ce que les punks disaient déjà. Hein, c'est pas parce que tu es en association que c'est mieux. Hein, c'est ce qu'ils ont toujours dit, et que c'est plus moral, et qu'il y a moins d'exploitation et moins de précarité. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'au contraire, les punks avaient une certaine maturité. Et dans le fait que ils ne mythifiaient pas l'économie sociale et solidaire. Ce qui sera le cas après. Et voilà, donc, bon. Alors, on sait, vous voyez, c'est un travail qui n'est pas achevé, hein, il faut encore que je vois pas mal de monde. Et
et que je vois des fonds. Non, je sais pas, on verra. En tout cas, merci.
Bah, je pense que je suis dans les temps. Voilà.
Bien, merci Arnaud pour cette superbe communication. Franchement, la thématique est vraiment très très intéressante. Puis c'est une problématique qu'on a vue dans la thèse notamment de notre doctorant Manuel Roux. Je ne sais pas où il est passé.
Ah voilà,
il est derrière moi.
On devait voilà. Discuter.
Voilà. Vous aurez l'occasion d'en discuter. Une des clés que tu donnes d'ailleurs, le fait subvention ou pas subvention, je pense que c'est très important aussi dans la construction de l'authenticité punk. Enfin, on en a discuté, et, notamment parce que, y compris la problématique des punks par rapport aux structures institutionnelles, au SMAC, etc. aujourd'hui. Donc ça rejoint des problématiques qu'on connaît bien. Et juste, j'ai bien aimé ton démarrage aussi sur les collectifs qui n'ont pas vraiment de... Je pensais à Factory Records, par exemple, à Manchester, par exemple, où c'était un flou un petit peu absolu. Voilà. Donc, question, Manu, tu voulais... Ouais, je m'en doutais. Ouais. Et puis, bon, après...
Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est tant une remarque. Je suis désolé, j'ai pas eu la chance d'arriver au début. J'arrive de Gare de l'Est, j'ai galéré pour venir... Mais... J'ai traversé la France. Je suis un peu un voyageur. il me semble que l'un des moyens peut-être pour commencer à lever le voile sur les paradoxes effectivement de cette économie morale et de cette économie du coup marchande, c'est de peut-être faire ce premier geste à mon avis. C'est vraiment un questionnement que j'ai. Hein. De les replacer dans la division sociale du travail artistique. C'est-à-dire de les considérer d'emblée comme des producteurs et des diffuseurs d'œuvres culturelles. Ce qui permet déjà de bien, à mon avis, bien identifier ce qu'ils font déjà. Ils peuvent faire d'autres choses à côté, mais ce qui les lie, ce qui les fait maintenir entre eux, c'est le fait qu'ils aiment la musique et qu'ils veulent la partager ensemble et qu'ils veulent créer des activités autour de ça. Donc ce qui veut dire par là, en mon sens... Et c'est beaucoup plus précis, à mon avis, de le prendre comme ça, pour savoir ce qu'ils font, que de le prendre par la question des imaginaires, par exemple, qui se construit après coup, hein, je pense. À mon avis, hein, je pense qu'il faut d'abord étudier la structure des rapports sociaux, et des rapports sociaux de production. Et effectivement, là-dedans, on voit bien que, et je donne un exemple très concret, peut-être pour ma scène, qui est celle la plus récente, on va dire, mais à mon avis, qui est très liée à ça, c'est-à-dire que la question de se monter en association se pose concrètement, mais très concrètement, quand on joue dans des endroits qui facturent. Pas avant. On peut passer sa vie avant à jouer dans des lieux qui ne facturent pas, qui sont dans la semi-légalité, les bars, etc. Et donc c'est pour ça que de dire qu'après, ils sont dans une forme de... De dire d'emblée qu'ils sont dans une forme d'imaginaire contre-culturel... pour définir leurs pratiques et qui sont dans une forme d'idéal qu'ils ne peuvent pas se permettre, moi je crois que c'est plutôt le contraire. C'est que pour faire ce qu'ils font, ils sont obligés que d'en passer par là, d'une certaine manière, et qu'après la question se pose dans un second temps, quoi. Mais vous voyez, de parler d'emblée d'imaginaire, d'un seul coup, effectivement, là on peut voir que la situation d'une manière très très paradoxale, en fait.
Alors, moi j'ai pas parlé d'emblée d'imaginaire, hein, comme ça.
Mais c'est pas vous, mais je parle de...
Donc je pense que moi j'ai parlé d'emblée finalement de leur pratique de survie économique. Quoi. Alors, je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites. Alors, néanmoins, moi je maintiens, enfin peut-être que c'est une... C'est un trait de ma part, hein. Mais que le punk n'a jamais été qu'un mouvement artistique. C'est-à-dire qu'il avait bien une dimension de mouvement social. Pas forcément très politique, mais de mouvement social, et que je ne suis pas d'accord pour le séparer complètement. De la même manière que je pense qu'effectivement, il y a un retour là-dessus, et qui, à mon avis, est mérité. Le punk, ce n'est pas que la musique, c'est aussi l'énorme production de fanzines. Hein, qui est tout à fait intéressante. Et là, dans les fanzines, on parle beaucoup de musique, évidemment. Mais on parle beaucoup de musique, mais on ne parle pas que de musique dans les fanzines. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de central. Après, ce que vous dites, je suis assez d'accord. Bon, mais je pense même que dans la division du travail artistique, du point de vue des majors, c'est clair. Hein, les labels punk, en fait, défrichent.
Alors, leur but, c'est de défricher. Hein, eux, ils les voient comme ça, pas de se pérenniser, de repérer des groupes. Et une fois que les groupes, effectivement, sont considérés comme bankable, eh bien, en fait, ils doivent passer dans le circuit commercial des majors. D'où, et je pense que c'est un point de vue général du business. C'est aussi une des raisons pour laquelle les labels punk ne sont pas soutenus.
Hein, parce qu'au fond, là, il me semble que historiquement, il y a un virage assez important à la fin des années 80, quoi. Fin des années 80-90, ce qui entérine la fin de la scène alternative, en gros, hein, telle qu'on l'a construite dans les années 80, ce que tu as évoqué, hein, les bondage, etc., avec des artistes qui quittent la scène punk ou indépendante et qui vont signer. Sur des majors.
Voilà, ils signent sur les majors. Les majors, ils jouaient à ça.
Et, et par contre-coup, ce qui provoque l'émergence d'une scène beaucoup plus ultra-indépendante par réaction.
Oui.
Voilà.
Ça, et je suis d'accord.
Celle qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Parce que ce sont tout le temps des positions, finalement, de réassurance, en fait. Sur cette question de l'authenticité, de l'indépendance, de la méfiance à l'égard du système, avec des guillemets à tous les niveaux. Hein,
Mais c'est une méfiance à l'égard du système.
Avec lequel
il
faut quand même
toujours,
faire.
Avec lequel il faut faire. Oui. Donc il y a une certaine pragmatique punk, voilà, pour le dire honnêtement. Ouais. Et puis la méfiance à l'égard du système, elle n'est pas forcément toujours naïve. Hein. Je veux dire, après tout, ils avaient raison de se méfier aussi.
Moi, j'avais une question à te poser aussi, toujours sur cette fin des années 80. Est-ce que tu penses, par exemple, que l'émergence d'un nouveau support comme le CD à la fin des années 80, qui a obligé les majors à faire des choix aussi différents, est-ce que tu penses que ça a eu un impact aussi sur tout le tissu underground, les labels indépendants?
Ouais, probablement. Il faudrait regarder dans les faits, dans les coûts de production, notamment, hein, parce que ça a joué. Hein, c'est que, par exemple, la crise de 73-74 a eu une incidence très importante hein, sur la production de disques, parce que les coûts du vinyle avaient augmenté. Hein,
Et à mon avis, ce qu'on vit aujourd'hui aura aussi, avec le Covid, aura aussi un impact qu'on ne peut pas mesurer encore, mais on voit bien. Hein.
Oui, alors pour mon parcours, ça a été beaucoup plus compliqué, dans le sens que mon label est américain, donc il a été créé aux États-Unis. Et au début, d'abord parce que le système de taxation aux États-Unis est beaucoup plus ouvert, donc il ne s'est jamais posé vraiment de problème de savoir si on était en SARL, en associatif ou quoi que ce soit, simplement on sortait. Et après, quand j'ai voulu monter la Sammy Stock Records en France, là, ça a été un enfer, parce qu'en fait, il a fallu donc, à partir de ce moment-là, comme c'était un label américain, de se mettre en SARL. Donc j'ai loupé toute l'histoire de l'associatif, qui aurait été en fait beaucoup plus rentable que la SARL, parce que la SARL... C'était l'URSSAF, c'était pour le code-barre, il fallait payer tous les mois pour avoir droit au code-barre. On fait des trucs assez insensés. Payer une personne qui s'occupait seulement des subventions, donc qui allait à droite à gauche remplir les formulaires pour obtenir telle et telle subvention. De toute façon, le rock en France n'a jamais intéressé... les autorités, si on veut élargir le spectre, et ce qui fait que à la fin, en plus, en 2005, ce qu'on a connu, c'est ce que disait Luc, c'était la fin du CD. C'est à partir de 2005 que les CD ne sont plus du tout vendus et que c'est passé au nouveau système de MP3. Avec Napster, en plus de ça, qui était au début. Ouais. Et donc, si vous aviez tout votre stock de CD qui n'était effectivement pas reconnu par aucune banque ni quoi que ce soit, c'était comme si vous aviez... ça valait rien, quoi. Ça valait 50 centimes si vous alliez au disqueur du coin. Et puis voilà, c'est tout.
Ça, c'est un vrai souci. Hein. Je pense que la non-reconnaissance de la valeur immatérielle ou de la valeur du catalogue et du CD, c'est un vrai souci. D'ailleurs, il y a des experts comptables qui sont d'accord. Ils disent que c'est pas normal. Hein. Il devrait y avoir une autre valorisation.
Absolument. Surtout que, par exemple, I Got a Right que j'ai sorti en 77, maintenant, on le trouve à 100 euros sur l'Internet. Bon, donc, il y a quand même une valeur. En plus, j'ai fait une erreur phénoménale. Ça, c'est les histoire de jeunesse, c'est que j'avais décrété que le label était socialiste. Alors aux États-Unis, c'est tout de suite... c'était le gros communiste qui arrivait. Et que j'avais cette idée qu'en fait, de faire un partage équitable entre le label et les groupes, et que donc les groupes faisaient partie, devaient s'intéresser aussi bien voilà. à la vente que ceci, cela. Mais malheureusement, c'est mal connaître les musiciens américains, en tout cas, qui avaient peut-être l'impression que c'était un label, un major, et qui donc, eux, du moment que ce qui les intéressait, simplement de jouer, le reste, ils n'en avaient rien à foutre. En plus de ça, même ce qui les intéressait en plus, c'est de se droguer, avoir des groupies, et... boire des bons coups et puis faire des concerts et puis voilà, ça s'arrêtait là. Donc effectivement, au niveau des ventes et au niveau de la promotion, c'était un casse-tête chinois. Le gros problème en France qu'il y a eu donc en étant une SARL, il y a eu donc, il fallut, j'ai tout fait, je me suis inscrit à la SCPP, la Société des producteurs, enfin, etc., etc. À chaque fois, il y avait, oui, vous avez de l'argent, ah, ok, ben, donnez, ah oui, mais il faut remplir 15 trucs, à la fin, tu laisses tomber, tu dis, ok, gardez votre fric. Bon, et ce qui est quand même effroyable, parce que ce qui m'intéressait surtout, c'était de rémunérer les groupes d'une part, et aussi avoir suffisamment de fonds, parce que j'ai toujours financé, moi, auto-financement, pour pouvoir continuer, faire le disque d'après, etc. Sinon, ça, quel est l'intérêt d'avoir un label s'il n'y a pas de production ?
Mais moi, donc, je pense que c'est... Juste, si je veux juste dire un mot, vous avez absolument raison sur la question aussi du fait que le rock en France n'a jamais été soutenu. Parce que... Il y avait des discours à la fin des années 80 comme quoi le ministère de la Culture allait soutenir le rock, mais c'était pas vrai. Hein. Dans les faits, je me souviens de certains labels à la fin qui cherchaient à avoir des subventions qui n'étaient pas énormes, juste pour arriver à survivre, et ils n'ont rien eu du tout. Hein. Donc il y a eu des effets d'annonce, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a peu d'associations qui disent qu'elles reçoivent des subventions, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Quoi. Mais
c'est...
Alors que le petit groupe de rap... Les subventions alors qu'ils, je ne sais pas comment ils se débrouillaient. Peut-être qu'ils avaient une meilleure personne qui savait comment les trouver. Mais en tout cas, ça c'est...
Politiquement, ils ne le jouaient pas de la même manière.
Merci Arnaud. On peut réapplaudir Arnaud Lemarchand pour cette communication super hein, qui nous met tout de suite dans l'ambiance.